Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire les entretiens de 1953 de mère. Alors le 22 juillet 1953. Alors la première question est celle-ci. Deux facteurs sont à considérer en la matière pour les causes de maladie. Il y a ce qui vient de l'extérieur et ce qui provient de la condition intérieure. L'état interne devient une maladie quand s'y trouve de la résistance ou de la révolte, ou quelque partie de l'être ne répond pas à la protection. Parfois même, il y a quelque chose qui appelle presque volontairement les forces adverses. Il suffit d'un très léger mouvement de ce genre et en un instant, les puissances hostiles fondent sur vous et leur attaque se traduit le plus souvent par une maladie. Quelle partie de l'être ne répond pas à la protection? Qu'est-ce que cela veut dire, douce mère? Je vous ai expliqué cela, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Seconde question. J'ai compris le sens des mots, mais je ne comprends pas pourquoi c'est comme cela. Réponse de mère. Parce que je dis quelque chose de l'être. Tu comprends bien, n'est-ce pas, ce que veut dire être dans une protection. Tu comprends aussi sortir de la protection. Si tu fais quelque chose qui est contraire, par exemple, si tu es sous la protection du divin et qu'à un moment donné, tu aies une pensée de doute et de mauvaise volonté ou de révolte, immédiatement, tu sors de la protection. Alors, la protection agit autour de toi pour empêcher les forces adverses de venir sur toi ou un accident de se produire. C'est-à-dire que si tu perds conscience, cela empêche que ton manque de conscience produise immédiatement un résultat mauvais. Mais si tu sors de la protection, et que ne sois pas tout le temps vigilant où tu seras attaqué par les forces adverses ou un incident se produira. Mais ceux qui ne sont pas conscients, réponse de mère, ceux qui ne sont pas conscients, mais encore là, j'ai dit, que je ne parlais pas de gens ordinaires. Je ne parle pas de gens ordinaires. Ils ne sont pas sous une protection spéciale. Les gens ordinaires sont dans des conditions ordinaires. Ils n'ont pas de protection spéciale qui veille sur eux. Et ce n'est pas pour eux que je dis cela. Eux suivent toutes les lois ordinaires de la vie et on ne peut pas leur expliquer les choses de la même manière. Tu pensais à tout le monde. Qu'est-ce que c'est pour que tout le monde comme cela? C'est pour que les gens qui font le yoga, ce n'est pas pour tout le monde. Est-ce que par la peur, question, on peut avoir une maladie? Oui. Réponse de mère. Oui. J'ai connu quelqu'un qui a eu si peur qu'il a eu le choléra. Il y avait le choléra dans la maison d'à côté. Cette personne-là a eu une telle peur qu'elle l'a attrapé le choléra sans autre raison. Il n'y avait pas d'autre raison qu'elle l'attaque. C'est la peur uniquement. Et c'est une chose très commune dans une épidémie. La majorité des cas, c'est cela. C'est par la peur que la porte s'ouvre. Et alors, on attrape la maladie. Ceux qui n'ont pas peur peuvent aller librement. Généralement, ils n'attrapent rien du tout. Mais encore, comme je l'ai déjà dit, on peut ne pas avoir peur dans la conscience mentale. On peut ne pas avoir peur même dans son vital. Mais qui est-ce qui n'a pas peur dans son corps? Il y a très peu de gens. Il faut une discipline sévère pour guérir le corps de la peur. Les cellules elles-mêmes tremblent. C'est seulement par une discipline, par le yoga, qu'on peut surmonter cette peur. Mais c'est un fait que l'on attrape n'importe quoi par la peur, même un accident. Et n'est-ce pas, tout est contagieux à un certain point de vue. J'ai connu une personne qui a eu une blessure par l'espèce d'horreur qu'elle a éprouvée en voyant la blessure d'une autre personne. Elle y est arrivée. Question. Quelle différence y a-t-il entre la peur mentale, vitale et physique, douce mère? Réponse de mère. Si tu es conscient du mouvement de ton vital, du mouvement de ton mental, du mouvement de ton physique, tu le sais. Mental, c'est très simple. Ce sont les pensées. On se met à penser, par exemple, qu'il y a cette maladie et que cette maladie est très contagieuse et que peut-être on va l'attraper et que si on l'attrape, ça va être terrible. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas l'attraper? Et alors le mental se met à trembler. Qu'est-ce qui arrivera demain, etc., etc. Le vital, on sent. On sent dans les sensations, tout d'un coup, ça fait chaud, ça fait froid, on transpire. Ou il vous arrive toutes sortes de phénomènes désagréables. Et alors, on sent son cœur battre comme cela. Et tout d'un coup, on a la fièvre. Et puis, tout le sang s'arrête, on devient froid. Physiquement, ça, quand on n'a pas plus de les deux autres peurs, on peut s'apercevoir de la peur physique. Généralement, les deux autres sont beaucoup plus conscientes. Elles vous voient la peur physique. Mais quand vous n'avez pas quand vous n'avez plus de peur mentale, ni de peur vitale, alors vous en apercevrez. C'est une curieuse petite vibration qui entre dans les cellules et qui se met à trembler comme cela. Mais les cellules, n'est-ce pas comme un cœur qui se met à battre très fort? C'est dans les cellules mêmes. Ça tremble, un petit tremblement. Et comme ça, c'est très difficile à contrôler. Mais ça se contrôle. Je suis sûre que la majorité d'entre vous a senti cela. Quand on fait, par exemple, un exercice que l'on ne fait pas souvent ou que l'on fait pour la première fois, ce sont comme de toutes petites vibrations qui vous prennent dans toutes les cellules. Et alors, naturellement, on perd la plénitude de son contrôle sur son mouvement. Le corps ne répond plus à la force. Quand on veut mettre la volonté pour faire quelque chose, cela produit une sorte de résistance et d'incapacité dans le corps. Seulement, généralement, vous ne vous en apercevez pas parce que votre attention est plus attirée par l'appréhension mentale ou par cette espèce de recul vital qui est très différent dans la conscience, tandis que l'on n'est pas très conscient de la résistance qui se produit dans le corps. Généralement, dans tous les sports, l'athlétisme et toutes les compétitions, il y a un certain phénomène qui se produit. Vous avez dû remarquer avec vos camarades que certains font mieux que d'habitude. Il y en a d'autres qui font très bien d'habitude et qui sont presque incapables à ce moment-là. Ils le font beaucoup moins bien. Eh bien, cela parce que... Eh bien, cela dépend de cette espèce de petites vibrations dans les cellules. Parce que vous perdez le plein contrôle. Votre volonté n'a plus le plein contrôle du corps parce qu'il vibre. Il répond à d'autres forces que la vôtre. Je ne parle pas naturellement de ceux qui ont une tête qui se met à l'envers ou un vital qui est tout bouleversé. Cela, il n'y a rien à faire. Il vaut mieux qu'ils n'essayent pas. Je veux dire ceux qui ont un certain contrôle sur eux-mêmes, qui sont l'entraînement, n'est-ce pas ? Qui ont l'entraînement, n'est-ce pas ? Mais qui, au moment de la compétition, ne peuvent pas faire si bien que d'habitude. Cela dépend d'un manque de réceptivité du corps qui a un petit tremblement dans les cellules dont vous n'êtes pas conscient, mais qui est l'obstruction. Cela empêche de recevoir la force pleinement. Une autre question. Est-ce que les maladies sont des épreuves dans le yoga? Des épreuves? Pas du tout. Que l'on vous donne une maladie exprès pour que vous fassiez un progrès? Sûrement pas comme cela. C'est-à-dire que l'on peut retourner la chose. Il y a des gens qui ont une aspiration si constante, une si bonne volonté si totale, et que tout ce qui leur arrive, ils le prennent comme une épreuve sur le chemin pour faire un progrès. J'ai connu des gens, dès qu'ils étaient malades, ils voyaient là la preuve de la grâce divine pour les aider à faire un progrès. Ils disaient « Oh, c'est une bonne indication. » Je vais trouver quelle est la cause de ma maladie et je ferai le progrès nécessaire. J'en ai connu quelques-uns comme cela et cela marchait d'une façon magnifique. Il y en a d'autres, au contraire, qui, loin de s'en servir, se laissent aplatir par terre. C'est tant pis pour eux. Mais la vraie attitude quand on est malade, c'est de se dire « Il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais voir ce que c'est. » Il ne faut jamais penser que le divin vous a donné une maladie exprès, parce que vraiment, ce serait un très vilain divin. Fantastique. Quand même, question, quand même, il y a des microbes dans l'eau. Ils sont dans une condition physique, mentale, vitale et le reste suffisante pour attraper la maladie, même sans boire de l'eau, je t'assure. C'est tout leur être qui a une désharmonie constante, tout leur être physique. Je ne veux pas dire intérieurement. Ils sont peut-être très bien, mais ceux qui sont très bien résistent à tout. Alors je me permets de le répéter. C'est tout leur être qui est en désharmonie constante, tout leur être physique. Je ne veux pas dire intérieurement. Ils sont peut-être très bien, mais ceux qui sont très bien résiste à tout. J'ai vu juste l'opposé. J'ai vu dans ce pays, ici, des gens d'un village qui n'avaient à boire que de l'eau qui n'était plus de l'eau, qui n'était qu'une boue. Je l'ai vu de mes yeux. C'était une boue jaunâtre dans laquelle les vaches s'étaient lavées. Et ils avaient fait le reste où les gens avaient marché après avoir traîné dans la rue. Ils jetaient leurs ordures. Tout était là-dedans. Et alors j'ai vu ces gens, ils entraient. C'était de la boue jaune. Et puis là-bas, au bout, il y avait un peu plus d'eau. Ce n'était pas de l'eau, c'était jaunâtre, n'est-ce pas? Ils se penchaient comme cela. Et puis ils ramassaient cette eau. Et la prenait. Et il y en a qui ne se laissaient même pas l'eau se déposer. Il y en a qui savaient ce qu'il fallait mettre dedans, des herbes qu'il fallait pour que l'eau se repose. Et elle devient un peu plus claire si on la laisse longtemps. Il y en a qui ne savaient rien du tout. Ils prenaient cela. Alors, je me suis renseignée. Il y avait justement une épidémie de choléra dans les environs. J'ai dit, il y a des gens vivants dans ce village, avec une eau pareille. On m'a répondu, nous n'avons pas un seul cas de choléra. Ils étaient immunisés, ils étaient habitués. Mais s'il y en avait eu un seul qui l'avait attrapé par hasard, il est probable que tous seraient morts, parce que alors on entrait dans la peur, et par la peur, il n'y avait plus de résistance, parce qu'ils étaient de pauvres misérables. Mais ce sont les conditions morales de ces gens qui sont terribles, beaucoup plus que les conditions physiques, les conditions morales. Il y a des sadhus, n'est-ce pas, qui acceptent les conditions de vie immondes par sainteté. Ils ne se lavaient jamais, ils n'ont rien de ce que l'hygiène exige. Ils vivent dans une condition vraiment immonde. Ils sont purs de toute maladie, probablement parce qu'ils ont la foi et qu'ils font exprès. Leur morale est magnifique. Je parle des gens sincères. Je ne parle pas de ceux qui prétendent. Ils ont la foi. Ils ne pensent pas à leur corps. Ils pensent à la vie de leur âme. Ils n'ont pas de maladie. Il y en a qui arrivent à des états où ils ont un bras, une jambe, une partie du corps qui est complètement ankylosée par leur posture ascétique. Ils ne peuvent plus bouger. N'importe qui mourrait dans des conditions pareilles. Ils continuent à vivre parce qu'ils ont la foi. Parce qu'ils le font exprès. Parce que c'est une chose qu'ils se sont imposée à eux-mêmes. Par conséquent, la condition morale est beaucoup plus importante que la condition physique. Si vous êtes dans un milieu où l'on est propre et que vous restiez 3 jours sans prendre un bain, vous tomberez malade, vous tomberiez malade. Ce n'est pas pour vous dire de ne pas prendre de bain, parce que nous ne voulons pas être des sadhus. Nous voulons être des yogis. Ce n'est pas la même chose. Nous voulons que notre corps participe au yoga. Par conséquent, il faut dire ce qu'il faut pour qu'il soit en bon état. Mais enfin, c'est pour vous dire que la condition morale est beaucoup plus importante que la condition physique. D'ailleurs, ces gens qui, par ascétisme, s'abîment le corps volontairement et se torturent, et si c'était comme si c'était quelque chose qui le faisait, on crierait, on protesterait, on dirait que c'est un monstre, mais on le fait soi-même. Et on le supporte très bien parce qu'on se l'est imposé à soi-même et que l'on a en même temps cette espèce de gloriole d'avoir fait quelque chose de très remarquable par aspiration divine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien voilà. Je vous ai dit l'autre jour que je vous parlerai de la maladie. J'ai pensé à aujourd'hui et j'ai pris des notes parce que l'on peut me dire qu'il y a des microbes et puis qu'il y a des gens qui ne prennent pas et qui attrapent quand même des maladies. Mais la pensée n'est pas le seul facteur. Il s'en faut beaucoup. Enfin, je vais essayer de vous expliquer maintenant les notes que j'ai prises. Mère, regarde un papier. Je vous ai dit d'abord qu'une maladie sans exception, est l'expression d'une rupture d'équilibre. Mais il y a beaucoup de genres de ruptures d'équilibre. D'abord, je ne parle que du corps. Je ne parle pas des maladies nerveuses du vital, ni des maladies mentales. Nous verrons cela plus tard. Nous parlons seulement de ce pauvre petit corps. Et je dis que toutes ces maladies, quelles qu'elles soient, j'ajouterai même un accident, proviennent de la rupture d'équilibre. C'est-à-dire que si tous vos organes, si tous les membres et toutes les parties du corps, de votre corps, sont en harmonie les unes avec les autres, vous êtes en parfaite santé. Mais n'importe quel petit déséquilibre se produit ou n'importe où, et immédiatement, vous avez ou une petite maladie, ou une grande maladie, ou une très grosse maladie, ou bien il vous arrive un accident. C'est toujours relié à un déséquilibre intérieur. Mais alors, à l'équilibre du corps, il faut ajouter l'équilibre du vital et du mental. Pour que vous puissiez faire avec immunité n'importe quoi, sans qu'il vous arrive un accident, il faut que votre équilibre soit triple, mental, vital et physique, et non seulement dans chaque une des parties, mais dans les 3 parties, l'une par rapport à l'autre. Si l'on avait fait un peu de, si vous avez fait un peu de mathématiques, on vous aura expliqué combien de combinaisons cela peut faire et quelles difficultés cela représente. C'est là où est la clé du problème. Parce que les combinaisons sont innombrables et par conséquent, les causes de maladies sont innombrables. Les causes d'accidents aussi sont innombrables. Enfin, nous allons tâcher de les classer pour nous comprendre. D'abord, au point de vue du corps. Corps tout seul. Il y a deux genres de déséquilibre. Un déséquilibre fonctionnel et un déséquilibre organique. Je ne sais pas si vous avez fait la différence entre les deux, mais vous avez des organes et puis vous avez toutes les parties de votre corps, nerfs, les muscles, les os et tout le reste. Alors, si un organe en lui-même est en déséquilibre, c'est un déséquilibre organique. Et on vous dit cet organe est malade ou bien il est mal construit ou bien il est déformé ou bien il lui est arrivé un accident. Mais c'est l'organe qui est malade. Mais votre organe peut être en très bon état. Tous les os, tous nos organes peuvent être en très bon état, mais il y a une maladie tout de même, parce qu'il ne fonctionne pas convenablement. Il y a un déséquilibre de fonctionnement. Vous pouvez avoir un très bon estomac et puis tout d'un coup, il lui arrive quelque chose et il ne fonctionne plus convenablement. Ou votre corps peut être excellent, mais il lui arrive quelque chose où il ne fonctionne plus convenablement. Et alors, vous avez une maladie par déséquilibre fonctionnel, non par déséquilibre organique. Généralement, les maladies fonctionnelles, les déséquilibres fonctionnels se guérissent beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement que les autres. Les autres, cela devient un peu plus sérieux. Quelquefois, cela devient même très grave. Donc, cela fait deux domaines à voir et à savoir. Mais si vous avez un peu de connaissance de votre corps et l'habitude d'observer son fonctionnement, vous pouvez savoir de quel genre appartient, à quel genre appartient votre déséquilibre. Le plus souvent, quand on est jeune et que l'on a une vie normale, le déséquilibre est purement fonctionnel. Il n'y a que les pauvres gens qui, pour une raison ou une autre, ont eu un accident ou un déséquilibre avant leur naissance. Cela porte en eux quelque chose qui est beaucoup plus difficile à guérir. Non pas que ce soit inguérissable. En théorie, il n'y a rien qui soit inguérissable, mais cela devient plus difficile. Maintenant, quelles sont les causes de ce déséquilibre, quel qu'il soit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure? Les causes sont innombrables parce que d'abord, il y a toutes les causes intérieures, c'est-à-dire qui vous sont personnelles, et puis toutes les causes extérieures, c'est-à-dire les choses qui viennent vers vous du dehors. Cela fait déjà deux grandes catégories. Les causes intérieures. Nous avons dit, vous avez un cerveau, des poumons, un cœur, un estomac, un foie. Si chacun remplit son devoir et marche normalement, Et si tout s'accorde pour marcher au moment voulu et de la façon qu'il faut, j'ai bien peur que cela ne marcherait pas bien ou très bien tout le temps. Heureusement, cela n'a pas besoin de votre pensée consciente. Mais admettez qu'ils soient en bonne harmonie, les uns les autres, les bons amis, et qu'ils sont bien d'accord et tout le monde remplit sa fonction, son mouvement au moment où il le faut, en accord avec les autres. Ni trop tôt, ni trop tard, ni trop fort, ni trop lent. Enfin, tout le monde va bien, vous vous portez merveilleusement bien. Supposez que l'un d'entre eux, pour une raison quelconque, soit de mauvaise humeur. Il ne travaille pas avec l'énergie qu'il faut au moment où il faut. Il fait un peu la grève. Il ne faut pas croire que ce sera seulement lui qui sera malade. Tout le système va aller de travers. Et alors, vous vous sentirez tout à fait mal à l'aise. Et si par malheur il y a un déséquilibre vital, c'est-à-dire une déception ou une émotion trop violente ou enfin une passion trop grande ou quelque chose qui dérange votre vital, cela vient s'ajouter. Et si en plus votre pensée vagabonde et que vous commenciez à avoir des idées noires et à formuler des choses terribles et à faire des formations catastrophiques, alors là, vous êtes sûr de tomber malade tout à fait. Vous voyez la complication, n'est-ce pas? Une petite chose peut aller de travers comme cela par contagion intérieure, peut amener une autre chose très sérieuse. Par conséquent, l'important est de contrôler immédiatement. Il faut être conscient. Conscient du fonctionnement des organes, se rendre compte de celui qui ne se conduit pas bien et lui dire immédiatement ce qu'il faut pour le mettre d'aplomb. Ce qu'il faut, je vous l'expliquerai plus tard. C'est leur faire la leçon, comme on fait la leçon aux petits-enfants quand ils se mettent à avoir des fantaisies malsaines. Vraiment, c'est l'occasion de le dire. Il faut le dire. Non, ce n'est pas comme cela qu'on fonctionne. C'est tout à fait autrement. Mettez, par exemple, que votre cœur se mette à battre comme un fou, alors on le calme. On lui dit que ce n'est pas une manière d'agir. Et en même temps, uniquement pour l'aider, on prend de longues respirations rythmiques très régulières. C'est-à-dire que le poumon devient le mentor du corps. Du cœur et lui apprend à fonctionner convenablement et ainsi de suite. Je pourrais vous donner des exemples innombrables. Mère. Alors aujourd'hui, je termine cet entretien du 22 juillet 1953 que mère répond aux questions de ses élèves. Je continuerai la prochaine fois parce que mère explique sur la maladie et sur le comportement du corps par rapport à ses maladies. Je remercie infiniment Douce Mère et Sri Aurobindo pour cette merveilleuse lecture de connaissances pour le corps. Merci, Mère. Ganga Lakshmi.